On va réfléchir un petit peu sur ce temps que l'Église nous donne de vivre maintenant, le temps du carême. On a à peine sorti de la fête de Noël, du temps de la nativité cette année, pour déjà replonger immédiatement dans le carême. Seigneur, concentre l'année liturgique. La fête de Pâques est une fête mobile dans la liturgie de l'Église. Elle est liée à la première pleine lune de printemps. Et donc, suivant quand arrive cette pleine lune, la fête de Pâques est plus ou moins tôt. Il y a d'ailleurs une divergence qui peut être assez grande, comme cette année, je crois, avec nos frères et sœurs orthodoxes. Parfois, la date tombe à la même date, on n'a pas les mêmes calendriers. Enfin, bref, nous avons la chance de rentrer tout de suite maintenant dans ce temps de carême, dès mercredi prochain, pour 40 jours. Eh bien, nous avancerons, nous essaierons de pénétrer un petit peu ce grand mystère de Pâques qui est l'aboutissement du carême. Tout converge vers le mystère de Pâques. Et si l'Église nous donne à réfléchir pendant 40 jours, à rentrer dans une attitude intérieure beaucoup plus intense, plus forte, de conversion, de méditation, de contemplation du mystère, c'est pas pour rien. Ce grand mystère de Pâques, la charnière de l'histoire de l'univers, le centre et le cœur de notre foi, la mort, la résurrection du Christ, ce n'est pas une chose qui s'appréhende comme ça, simplement en quelques minutes, en quelques heures ou en quelques secondes. C'est quelque chose qui a besoin d'être creusé. Et si pour les premiers chrétiens, dès le départ, il y a eu la certitude du chavirement de l'univers et de la grâce extraordinaire qui était venue dans l'humanité, par la mort et la résurrection du Christ, si tous les dimanches matins, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine, le jour de la résurrection, le jour où le Christ était sorti libre et vainqueur du tombeau, le Dies Domini, le jour du Seigneur, les chrétiens se réunissaient pour célébrer ce grand événement, très tôt ils se sont rendus compte que c'est pas suffisant. Et donc ils ont décidé de revivre très concrètement, à un moment donné de l'année, celui qui correspondait à la Pâque du Seigneur, ces trois jours importants, ce qu'on appelle le Triduum Pascal, le jeudi saint où il institua l'Eucharistie, le vendredi où il vécut sa passion, il fut flagellé, crucifié, qu'il mourut, qu'il fut mis au tombeau, le samedi saint, ce grand jour de l'attente où le Christ descend aux enfers, et puis le dimanche, le jour de la résurrection, le jour de Pâques, comme ça. Puis très vite, ils se sont aussi rendus compte que finalement, c'était bien de méditer les trois jours, mais que c'était un si grand mystère qu'il fallait s'y préparer à l'avance. Et alors, dès le IVe siècle, on a déjà les premières marques du carême qui existent. Carême veut dire 40. Hein. Dès le IVe siècle, c'était une coutume généralisée dans l'Église que de se préparer à la fête de Pâques à travers tout un temps de descente, d'appauvrissement, de mise en situation. Cette attitude intérieure que requiert de nous le carême devrait être en fait l'attitude générale que nous devrions avoir dans la vie chrétienne de tous les jours. Mais je sais pas vous, mais moi, enfin, des fois, on oublie, on passe un peu par-dessus, il y a le train-train, il y a la routine. Finalement, on n'est plus émerveillé, bouleversé, remué jusqu'au fond de nos entrailles par le grand mystère de l'amour de Dieu. L'Église nous donne ce temps particulier pour vivre cela. Ce temps nous rappelle plusieurs choses. Bien sûr, les 40 jours que Jésus vécut au désert, c'est la première signification de ce temps de carême. Mais c'est pas uniquement cette signification-là. Il y a eu les 40 ans du peuple juif dans le désert. Il y a eu les 40 jours aussi à travers lesquels Élie marcha jusqu'à la montagne pour avoir cette expérience de Dieu au bout de ces 40 jours, jour et nuit, dans lesquels il marcha sans s'arrêter, ayant reçu cette nourriture mystérieuse de l'ange avant de partir, où il vécut cette rencontre avec Dieu comme ça. Donc il y a eu tout un mouvement du carême qui nous rappelle un peu toute l'histoire du peuple juif, tout le mouvement qui s'est fait au cours de l'histoire à travers lequel Dieu a essayé de ressaisir le cœur de l'homme, de reparler au cœur de l'homme, de rétablir une relation d'intimité entre l'humanité et lui. Ce temps de carême est un temps, on a dit parfois de pénitence, mais avant d'être un temps de pénitence, on pourrait retrouver trois caractères au carême. D'abord, un caractère pascal. Vraiment, on va revivre, on va méditer ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On va essayer de rentrer dans ce que cela signifie de bouleversant, qu'un Dieu se fasse homme, et qu'un Dieu non seulement se fasse homme, mais aille jusqu'au bout de notre humanité, porte sur lui toute la souffrance de l'humanité, porte sur lui tout notre péché, qu'il soit sur la croix pour nous pardonner ce péché, qu'il descende jusqu'au tréfonds de la mort, qu'il descende jusqu'aux enfers, c'est-à-dire ce lieu où reposaient tous les justes avant lui, qu'il ressorte de ce lieu libre et vainqueur, et que désormais la mort n'aura plus le dernier mot. Ce scandale, cette tragédie pour l'humanité qui était la mort, et qui demeure encore quelque part au fond du cœur de chacune et de chacun, cette mort n'était plus l'absurde et le dernier mot, la vie devenait vainqueur de la mort. L'amour était plus fort que la mort. Et désormais, le péché lui-même aussi était vaincu. Plus que le péché, le malin lui-même était vaincu. Le tentateur, l'homicide dès les origines, le père du mensonge, le diabolos, celui qui divise, était vaincu. Le Christ avait remporté la victoire à la désobéissance du premier homme qui avait provoqué cette tragédie originelle, cette séparation de Dieu, avait répondu d'une manière sublime l'obéissance de l'authentique Adam, du second Adam dans le temps, mais du premier dans l'excellence et la perfection, Jésus lui-même, le Verbe fait chair, et cette obéissance sauver l'humanité tout entière et ramener l'humanité et par l'humanité tout l'univers vers le Père dans la relation filiale.